La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Alors, je suis aujourd'hui avec le professeur Walter Wally, qui est professeur émérite à l'Université de Lausanne, au Centre de génomique intégrative, qu'il a créé lui-même d'ailleurs, je crois, c'est bien ça, c'est vous qui l'avez créé, et qui a beaucoup voyagé et qui est aussi professeur, encore maintenant, à l'occasion, invité à l'Université de Singapour, en relation avec le Imperial College à Londres. Il a eu une chaire d'excellence Pierre de Fermat en 2014, donc il connaît très bien Toulouse. Il travaillait à l'INRA, à Tournefeuille, et il a été accueilli récemment comme membre correspondant de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Alors, vous nous avez donné une superbe conférence à l'hôtel d'Assesa, dans la salle Clément Cizor. Vous avez commencé par nous raconter ce qu'est l'ADN, puisque vous nous parlez de la nutrigénomique, c'est-à-dire l'interaction entre les nutriments et les gènes. Et les gènes sont donc des morceaux, si je peux dire, d'ADN. Et vous nous avez expliqué que l'ADN est en fait, bon, tout le monde connaît la double hélice d'ADN, mais qu'elle est très, très repliée dans les cellules et que c'est en fait, si on pouvait la déplier, on peut la déplier, je crois. C'est une longueur extraordinaire.
Oui, c'est ça. Donc, dans chacune de nos cellules, nous avons 23 paires de chromosomes. Et l'ADN est associé à des protéines qui compactent cet ADN. Parce que si cet ADN, on le déroule totalement, dans chacune des cellules, il y a 2 mètres d'ADN. Et le diamètre d'une cellule, c'est d'ordre de grandeur de 30 à 40 micromètres. Cet ADN de 2 mètres trouve place dans le noyau de la cellule qui lui fait que quelques micromètres de diamètre.
Et il y a combien de cellules dans le corps et ça fait combien de longueur d'ADN si on mettait bout à bout tout ce qu'il y a comme ADN dans chacune de nos cellules?
Voilà, on estime globalement que dans notre corps, nous avons 37 000 milliards de cellules. Donc, si on compte la longueur de l'ADN, on obtient des chiffres qui sont équivalents à 16 fois la distance qu'il y a entre la Terre et Neptune.
Et alors, vous nous avez donc parlé de l'importance de ce qu'on mange sur les gènes. Donc, tout le monde sait que suivant la nourriture qu'on avale, là, la santé peut changer. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus scientifique. C'est que les molécules des nutriments viennent agir directement sur notre ADN.
La nutrition, je le dis toujours, c'est l'interaction la plus forte que nous avons avec notre environnement. Donc les interactions avec l'environnement peuvent être par les changements de température et différents autres facteurs. Mais ce qui est différent avec la nutrition que nous prenons dans notre environnement, c'est que nous l'ingérons et que cette nutrition nous permet de vivre simplement. Donc ce qui a créé entre les êtres vivants et leur nutrition des interactions extrêmement bien contrôlées qui passent par la régulation de l'activité des gènes. Et certaines molécules que l'on trouve dans notre alimentation, des vitamines, des oligoéléments, mais aussi des acides gras, peuvent avoir une action directe sur l'expression des gènes.
Et alors, vous nous avez expliqué que non seulement ça a une action sur nos gènes, mais que nous sommes dépendants aussi de ce côté-là, de ce que nos parents ont mangé et aussi nos grands-parents.
Ce que l'on a observé, c'est que des nutriments agissent en mettant des marquages chimiques sur l'ADN sans changer l'information génétique qu'il contient. Et ces marquages changent les interactions entre l'ADN et les protéines dont nous avons parlé avant, qui sont impliquées dans le compactage de l'ADN. C'est ce qu'on appelle des marquages épigénétiques.
Des marquages, c'est-à-dire, disons que des molécules ou des éléments chimiques qui, alors je dis ça dans mon langage à moi, qui s'accrochent, qui se fixent au gène, et cette fixation perdure. Et en fait, s'il y a quelque chose comme ça qui se passe chez un papa ou une maman avant la conception d'un enfant, on peut retrouver cela dans l'enfant par la suite, une fois né.
Oui, éventuellement, mais de manière plus importante, si vous avez une maman qui est enceinte, ce qu'elle mange, s'il y a des effets de marquage génétique, ces marquages n'auront pas simplement lieu sur l'ADN de la maman, mais ils auront aussi lieu sur l'ADN du bébé en développement. Et donc, ce qui fait que ces marquages, compte tenu de la nutrition de la maman, auront un effet chez le bébé une fois qu'il sera né.
Et vous nous avez dit, je crois, que ça se fixait très vite. Est-ce que j'ai bien compris sur les organes sexuels ou ce qui vont devenir les organes sexuels de l'embryon, qui donc vont se transmettre ensuite à nouveau aux enfants que l'embryon aura quand il sera adulte?
Alors justement, quand le bébé est en développement, dans le ventre de sa maman, chez ce bébé en développement, ce qui sera ses cellules germinales plus tard, se différencie déjà très rapidement. Donc l'ADN des cellules qui deviendront les cellules germinales de cet enfant peuvent être marquées aussi. Ce qui veut dire que ce marquage affectera les petits-enfants de la maman en question.
Et vous nous avez parlé aussi de médicaments dont on connaissait les effets, et je crois que c'est assez fréquent, d'une manière empirique, c'est-à-dire par essai-erreur. Et beaucoup plus tard, on a commencé à comprendre, et vous avez vous-même beaucoup agi là-dessus, la compréhension du phénomène réel qui se passe, c'est-à-dire l'effet des molécules de médicaments sur le génome.
Oui, l'exemple que j'ai donné dans ma présentation concernait les fibrates, qui ont été beaucoup utilisés dans le passé pour abaisser le niveau de triglycérides circulants chez les patients. Ils le sont moins aujourd'hui, mais ces médicaments ont été utilisés depuis les années 1960, alors que leur mécanisme réel d'action, par des protéines qui agissent directement sur l'expression des gènes, ont été découverts dans les années 90, alors que les médicaments étaient déjà largement utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est que les protéines qui transmettent l'action des fibrates à l'expression des gènes, ces protéines-là, dans l'organisme, agissent comme les récepteurs des acides gras. C'est exactement les mêmes protéines, et les acides gras peuvent directement contrôler l'expression des gènes, comme le font les médicaments, les fibrates par exemple, que je viens de mentionner.
Ça me semble extrêmement important. Vous avez cité le cas de personne qui a un cancer et auquel on donne un médicament, on fait par essai-erreur. Donc quand on fait par essai-erreur, on peut donner un médicament qui ne marche pas, un autre médicament ensuite qui ne marche pas, un autre médicament qui ne marche pas. Donc ce serait important de pouvoir étudier la réceptivité ou le génome, ou je ne sais pas, de la personne malade, pour pouvoir détecter à l'avance, d'une manière scientifique, quel type de médicament va marcher ou pas.
Le parallèle que j'ai fait entre la nutrigénomique, qui étudie l'effet des nutriments sur les gènes, avec ce qu'on appelle la pharmacogénomique, qui étudie l'effet des médicaments sur l'expression des génomes. Et cet effet va bien sûr dépendre du génome du patient, par exemple. Et ce que j'ai mentionné, c'est que la pharmacogénomique, à ce jour, a surtout été utile, c'est là que l'application est le plus avancée, dans l'étude des cancers. En regardant la structure génétique d'une tumeur, on peut prédire par avance que certains médicaments, par exemple, ne pourront pas avoir d'effet sur cette tumeur donnée. Donc, il est inutile de donner le médicament en question à ce patient parce qu'il n'aura aucun effet. Et donc, par l'aide de la pharmacogénomique, on peut en général plus rapidement décider quel sera le médicament qui sera le plus efficace pour cette tumeur en question.
Voilà donc l'importance de la science fondamentale, l'étude des molécules directement, leur action sur l'ADN, etc., et pas seulement quelque chose d'empirique et d'essai-erreur. Et donc vous enseignez ça à l'Université de Lausanne et à d'autres endroits dans le monde. C'est très récent ces études et c'est en plein développement. Est-ce qu'il y a des enseignements qui se font d'une manière générale ?
Alors, beaucoup de médecins sont vraiment sensibles à cette thématique de nutrigénomique. Et ceci est justement relativement récent aussi avec le développement, bien sûr, de ce nouveau type d'étude. Et je pense qu'il est absolument indispensable, disons, pour des étudiants en médecine partout dans le monde. Dans certains cas, il y a déjà des enseignements de nutrigénomique, que les étudiants soient sensibilisés et apprennent, disons, de quelle manière la nutrition agit sur l'expression des gènes et a un impact sur la santé. Et je vais même plus loin, je pense que médicalement, il sera dans le futur extrêmement intéressant d'associer, si possible, une nutrition adéquate avec des médicaments spécifiques pour obtenir l'effet maximum de ces médicaments et éviter les effets secondaires.
Je trouve que c'est très important et je crois, on en a parlé un petit peu, c'est très délicat, qu'il faut faire attention à ne pas confondre toutes ces études scientifiques actuelles avec tout ce que les gens peuvent voir sur Internet et toutes ces publicités qui prennent des petits bouts de science pour essayer de vendre des pilules, des médicaments. Donc je crois qu'il faut faire très attention, mais je ne sais pas comment.
C'est extrêmement important et je crois qu'il faut se renseigner et essayer de voir si ce qu'on veut vous vendre, si l'effet a été bien décrit, c'est-à-dire si on connaît comment agissent en fait les molécules qu'on veut vous vendre et que la vente n'est pas simplement basée sur de la publicité pour laquelle il n'y a pas vraiment d'évidence scientifique.
C'est ça, il faut faire attention à ce qu'on nous montre comme des corrélations, en fait. On peut faire un petit peu n'importe quoi avec des corrélations. Il faut vraiment l'évidence scientifique. Ce n'est pas facile pour le grand public, pour chacun d'entre nous, mais c'est quand même ce qu'il faut. Merci, professeur Wally, et j'espère qu'on vous reverra bientôt à Toulouse.
Merci beaucoup, je reviendrai avec plaisir, et ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous.